Alain me donne le peur de commencer. Mais peut-être parce que cette soirée est encore plus consacrée à Jules Isaac, mais aussi au pape Jean XXIII. Avant de commencer cette soirée, je voulais vous remercier, en tout cas pour tous ceux qui sont là, des messages très touchants que j'ai reçus, qui m'ont beaucoup soutenue, qui nous ont soutenus dans notre famille et qui m'ont fait beaucoup de bien. Parce qu'effectivement, c'était un moment, et c'est un moment absolument exceptionnel d'effroi. Et comme disait une de mes amies, tu as certainement le cœur en vrac. Et oui, j'ai vraiment le cœur en vrac. Alors vous m'excuserez peut-être ce soir, j'espère que je vais bien lire mon texte. Il est travaillé depuis très longtemps, je crois connaître l'histoire de Jules Isaac. Et puis surtout, bien sûr, si vous avez des questions à poser, je serai ravie d'y répondre. Et puis j'ai de l'aide pour y répondre de toute façon. Merci, à tout de suite, je vais changer de micro. Est-ce que c'est bien? Vous m'entendez bien? C'est bien? C'est mieux encore. Hein.
Oui, on entend.
Oui. Oui. Alors, Jules Isaac, eh bien, c'était un Français républicain, laïc, mais il se nommait Isaac. Il est né à Rennes en 1877 dans une vieille famille israélite, profondément enracinée en France. Elle choisit d'ailleurs la France lors de l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par l'Allemagne en 1871. Au sein du milieu familial, coutumes et croyances religieuses s'étaient effacées pour faire place à une tradition militaire récente, mais solidement implantée. Le grand-père de l'historien avait combattu à Waterloo. Sa médaille de Sainte-Hélène figure encore parmi les souvenirs de famille. Le père, lui, était parvenu sous le Second Empire aux performances remarquables de chef d'escadron, d'autant plus s'appelant Isaac. L'un et l'autre étaient décorés de la Légion d'honneur à titre militaire. Deux juifs, la famille n'avait plus que le nom. Dans les lycées parisiens, Jules Isaac reçut une solide formation classique de grec et de latin. Et c'est le grec qui le séduit, dont deux figures de ce temps le marquèrent. Henri Bergson fut son professeur de cahier à Henri IV. Quant à Charles Péguy, ce fut une amitié profonde qui durera toute la vie. L'année de ses 20 ans fut marquée par l'affaire Dreyfus. Un innocent, condamné sur production de faux documents, offert en holocauste aux passions antisémites qu'avait déchaîné Drummond et l'extrême droite. Alors comment une existence d'homme peut se prolonger en une œuvre? Franchissons presque un demi-siècle de l'affaire Dreyfus. Son ancien défenseur reçut une double blessure. Comme Français, attaché à la démocratie et plus encore en tant que juif, pour la première fois, solidaire de ceux qu'il découvrait soudain comme des frères inconnus. L'année 40 trouva l'ancien militant socialiste transformé au point d'en être méconnaissable. Le compagnon de Péguy avait franchi d'un pas rapide les étapes du cursus honorum universitaire, c'est-à-dire professeur des hautes classes des lycées parisiens, auteur d'une collection de manuels historiques, Mallet et Isaac, qui devint et demeura longtemps la Bible des lycées français. On a tous connu cela, n'est-ce pas, ici? Il accédera également très tôt aux fonctions enviées d'inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale. En 1939, son autorité était suffisamment reconnue pour que le ministre de l'époque le désigne pour présider le jury de l'agrégation d'histoire. Sa réputation avait fait que même le maréchal Pétain lui avait demandé de faire son historiographie. Mais ce même maréchal devint chef du régime de Vichy, et dans le cadre des mesures prises contre les Juifs, l'inspecteur général Jules Isaac fut, dès le 3 octobre 1940, destitué de toutes ses fonctions et chassé de l'université française par le ministre de Vichy, Abel Bonnard, qui écrivait un statut des Juifs les excluant de la fonction publique. Il disait « Il n'est pas admissible que l'histoire de France soit enseignée aux jeunes Français par un Isaac ». Il écrivait cela dans l'hebdomadaire Gringoire le 13 novembre 1942. Commandeur de la Légion d'honneur sous la Troisième République, Jules Isaac se voit radié de l'ordre par les nouveaux maîtres. Cette exclusion, cette radiation, jamais il ne les oubliera. Il quitta donc Paris en 1941 pour se réfugier à Aix-en-Provence, où il comptait des amis sûrs. Au passage de la ligne de démarcation, un panneau aux hautes lettres le plongea dans une douleur méditative. Interdit aux nègres, interdit aux juifs. La famille Isaac s'est bien acclimatée à cette ville accueillante, mais ne se sentant plus à l'abri, en 1942, après de nouveaux décrets, ils décidèrent de quitter Aix pour s'établir au Chambon-sur-Lignon. Alors le drame familial. Son ami Peggy lui disait souvent qu'il n'est pas facile d'être juif. Daniel, le fils aîné, appartenait à la résistance. Son réseau fut démantelé et il quitta la France pour franchir les Pyrénées. Il enseignait au collège Sévenel, fondé par le pasteur Trocmé et Édouard Tess. Ce départ affecta profondément Jules Isaac et son isolement le décida à s'établir à Riom. Là, il se rapprocha de son gendre et les Isaac vécurent dans cette ville sous le nom de Marc, dans une semi-clandestinité. Mais brusquement, le filet de la Gestapo s'abattit sur une partie de la famille. Jean-Claude Isaac, le cadet des fils, faisait des missions pour la résistance et fut arrêté avec son beau-frère et sa sœur, Juliette, lors d'une de leurs réunions du réseau Supermap. Madame Isaac apprit la nouvelle quelques heures plus tard et partit en urgence à Vichy pour s'informer du sort de ses enfants. Le lendemain, la Gestapo vint à Riom cueillir à leur hôtel la famille Isaac. Mais elle trouva que madame, car Jules Isaac était parti chez le coiffeur, et c'est ce qui le sauva. Mais sa seule idée était de retrouver sa famille. Alors il décida d'aller à la Gestapo de Clermont-Ferrand. Vous allez écouter une scène tragi-comique qui s'y déroula. Un jeune soldat lui ouvrit, Jules Isaac s'adressa à deux officiers qui refusèrent de l'entendre, sans écouter ce que ce visiteur juif voulait. Ils le mirent à la porte, l'invitant à revenir la semaine prochaine. C'était un samedi. Pourtant, il ne faisait pas Shabbat, eux. Mais il devait partir en montagne, se divertir. Alors la mort vraiment ne voulait pas du Jules Isaac. Malgré tout, Il se sentait perdu. Son ami Dominique Parodi, inspecteur général de philosophie, l'accueillit à Roya. Madame Parodi le dissuada de se livrer à la Gestapo. Tout le monde y passe. À quoi servirait votre sacrifice, lui dit-elle. Il repartit au Chambon pour prévenir sa belle-fille du danger et prit la fuite. Sa femme était parvenue à lui faire passer de Drancy un billet où elle était internée avec ses enfants. Et ce billet portait les mots « Garde-toi pour ton œuvre que le monde attend ». Ce billet, ce fut celui-ci qui lui décida de survivre pour donner une mission qu'il considérait maintenant comme sacrée. Un membre de la résistance, Madame Germaine Boquet, le cacha d'abord dans la ferme de sa grand-mère au Pro, près d'Issoudun. Cette personne, en cachant Julizac, en a sans doute caché d'autres, car elle fut reconnue juste parmi les nations de Yad Vashem en Israël en 1988. Mais il la quitta rapidement pour passer à Levoux, un coin du Berry. C'est du Berry que lui parvint d'Auschwitz un billet de son fils, lui disant que tout allait bien. La lettre était loin de traduire la vérité, la réalité. L'été 1944 fut terrible pour Julizac, réfugié. Il échappa plusieurs fois à la mort. Après la libération, Louis Jox, ami de son gendre et secrétaire général du gouvernement provisoire, obtint du général de Gaulle le rétablissement de Julizac dans ses fonctions d'inspecteur général, chargé pour un an de mission extraordinaire. C'est aussi grâce à Louis Jox qu'il retrouvera son fils aîné Daniel, officier de commando dans la première armée française. Ce dernier est décédé en 2009. Les autres membres de sa famille sont morts à Auschwitz dans les conditions que vous connaissez. Leur déportation le marquera toute sa vie durant. Un nouvel homme, un livre neuf, un génie providentiel. L'évolution de Julizac peut se caractériser en quelques traits. Durant sa jeunesse, il n'avait reçu aucune éducation religieuse. Aucune influence ne s'était exercée en lui en ce sens. Jusqu'en 1940, il se savait d'origine juive, sans se croire pour autant astreint à aucune croyance et à aucun acte positif. C'est sous l'effet des événements de 1940-41 qu'il vint lentement à la vie religieuse qui se limita pour lui à deux exigences fondamentales. D'une part, un besoin de pureté et de vérité qui devait, dans son esprit, toucher aussi bien les chrétiens autant que les juifs dans la représentation qu'ils se faisaient les uns des autres. Déjà, hein. D'autre part, un besoin de fraternité humaine qui briserait toutes les barrières théologiques. Ces barrières, dans son optique, sont nécessaires à toute religion, mais il faut qu'en certaines circonstances, l'on puisse les franchir. En 1941-42, devant la persécution qui s'abattait sur les Juifs de France, il avait discuté de la question dans des comités formés à Marseille et à Aix-en-Provence. Il était entré en relation avec des rabbins, avec d'autres Juifs, très conscients de leur appartenance religieuse. C'est ainsi qu'il renoua des liens avec le judaïsme, restant pour lui non confessionnel, mais désormais religieux. Méditant longuement sur ces questions, il s'est mis à relire les évangiles. Il rédige un premier manuscrit, constatant à ses yeux l'écart énorme qui sépare la tradition et l'enseignement chrétien de sa lecture des écrits évangéliques. Ça sera Jésus et Israël, qui sera publié ce livre après-guerre. Il va exposer les faussetés des préjugés historiques, en particulier celui des personnes déicides, dont nous avons été traités longtemps, déicides et perfides, nous les Juifs, selon l'anti-judaïsme chrétien, et montre que l'enseignement du mépris des Juifs dans les églises est une trahison de la lettre et de l'esprit des évangiles. Et il le fera avec ses propres armes de savant, un examen attentif des textes, contextualisation, comparaison avec des sources contemporaines, la reconstruction historique et philosophique. Un vrai travail de talmudiste. Aussitôt, ce texte fixé, il le communique à plusieurs personnalités chrétiennes dont il tenait à connaître le jugement. Du côté catholique, il choisit le philosophe Maurice Blondel, avec qui il entretenait d'excellentes relations. Parmi les protestants, il s'adresse au pasteur Trocmé, ami de son fils aîné. Maurice Blondel lui donna un livre à lire, écrit par un jésuite, le père Fessard, sur la question juive, qui s'appelle « Pax Nostra, destinée et mission négative du peuple juif ». L'ouvrage est violemment antisémite. Et malgré les objections de Julie Zach concernant les fausses bases, Maurice Blondel, trop âgé, ne les comprit guère. Le pasteur Trocmé, en revanche, se montra très intéressé par les idées présentées dans le manuscrit afin de les approfondir. Et c'est en partant de là que Julie Zach entreprit d'écrire Jésus et Israël. Réfugié donc en 1942-43, non loin de Chambon-sur-Lignon, il rencontra également André Chouraki, qui lui-même était réfugié dans cette région, et obtint quelques indications supplémentaires et utiles. Bien avant ces drames, Julie Zach avait entrepris d'écrire ce livre-maître. Il travaillait avec des livres qu'il empruntait au hasard, à des prêtres, à des pasteurs, mais beaucoup d'ouvrages lui manquaient. Malgré tout, deux premières parties étaient terminées. C'est au printemps 43 à Levoux qu'il se remit au travail. Grâce à des amis, il disposa du texte grec des évangiles, accompagné du commentaire du père Lagrange. Il aimait particulièrement le grec, et c'était facile et bon pour lui. Il écrivit la partie centrale, Jésus et son peuple. Restait à faire la quatrième partie, et la dernière, le crime de déicide. Il n'écrivit cette partie qu'un an après, alors qu'il avait appris ce qu'Auschwitz avait fait aux siens. Cette dernière partie, écrite après la libération, a un caractère très dur. Il aura eu accès à toutes les bibliothèques universitaires et il publiera ce livre en 1948. À la suite de discussions et de polémiques qui s'étaient instituées auprès de ce livre, il publia en 1956 « Genèse de l'antisémitisme », suivi d'une brève défense de « Jésus et Israël ». En 1962, marquant une nouvelle étape dans sa pensée, il publiera « L'enseignement du mépris ». Ce dernier ouvrage modifie certaines vues de Jésus et Israël, particulièrement toujours sur le problème de la question du crime de déicide. Il ne supprime pas toute la responsabilité du sacerdoce israélite, mais la minimise étant donné les circonstances politiques de l'époque, du temps de Jésus, mais en comparaison à celle de Ponce Pilate, qui définit pleine et entière et écrasante comme responsabilité de la mort de Jésus. Il étudie de près les récits de la Passion, surtout le quatrième évangile. On constate avec lui que les rédacteurs des évangiles ignoraient très probablement le nom de Caïphe, le grand prêtre. La preuve est ainsi rapportée, qu'il tenait pour négligeable le rôle du sacerdoce juif dans le procès de Jésus. Ses travaux ont aussi mis l'accent sur l'aspect erroné et les intentions tendancieuses de l'affirmation chrétienne qui voulait que la dispersion du peuple d'Israël fût le résultat de son rejet du messianisme de Jésus. Ça se traduisait par le verus Israël, Jésus à la place d'Israël. À partir du IVe siècle, les pères de l'Église mirent en place un système de dégradation progressive des Juifs, traduit par une série de restrictions, d'exclusions, d'humiliations, mises en vigueur par les gouvernements séculiers, soumis à la suggestion ecclésiastique. Sans se satisfaire de la publication de ses recherches, Jules Isaac milita ardemment pour la cessation de l'antisémitisme et la réconciliation avec l'Église. En 1947, se tint à Saint-Lysberg un congrès dans lequel se réuniront juifs et chrétiens afin de soulever l'horreur des actions commises pendant la guerre, voire un terrible antisémitisme. Jules Isaac y participera ardemment. Auprès de lui, il y aura le rabbin Kaplan qui deviendra le grand rabbin de France que mes parents, moi-même, nous avons bien connu, c'était notre rabbin à Paris. 10 points de résolution seront conclus, appelant à une révision totale de l'attitude de l'Église à l'égard du judaïsme. En fait, il y aura 18 points qui sont là-dedans, mais ne seront retenus que 10 points. Pour Jules Isaac, l'antisémitisme est l'un des fléaux majeurs de l'histoire, alimenté aux sources empoisonnées d'une tradition religieuse défigurée. Il acquit la conviction que la lutte contre ce fléau représentait une mission sacrée à laquelle il se donna totalement, tout entier. De toutes parts, il fallait lutter. Après Salisberg, un nouveau regard devait se poser sur cette calamité. Lorsque Jean XXIII accéda à la papauté, le Vatican rechercha ses conseils et Jules Isaac fut reçu en audience en 1960. Et cette rencontre avec le pape fut l'aube d'une solide amitié fraternelle et d'une confiance absolue. Et notre ami le père Alain, tout à l'heure, nous parlera de tout cela. Ses écrits influenceront grandement sur la décision d'introduire un état des relations entre juifs et chrétiens, entre juifs et l'Église, au Concile Vatican II, qui s'achèvera en 1965. Combattre pour la vérité, c'est la devise portée au revers d'une médaille en l'honneur de Jules Isaac, médaille qui fut frappée en 1968 par la monnaie de Paris et toujours grâce à lui, à Louis Jos. Dès 1947, Jules Isaac recherchera des personnes ayant des objectifs semblables aux siens pour une tâche essentielle. Écoutez bien. Faire en sorte qu'entre le judaïsme et le christianisme, la connaissance, la compréhension, le respect et l'amitié se substituent aux malentendus séculaires et aux traditions hostiles. Œuvrer non seulement pour que soit éradiqué l'antisémitisme ancestral, mais aussi pour que juifs et chrétiens aident par une présence civique et spirituelle la société moderne à s'orienter. Eh bien, voilà ce que nous rappelle le premier statut de l'amitié judéo-chrétienne que Jules Isaac a fondé en 1948. Sur tous nos revues Sens, vous avez derrière tous les statuts. L'importance pour nous aujourd'hui, 75 ans après, juifs et chrétiens que nous sommes, devons continuer son œuvre et œuvrer pour sa mémoire et pour l'honorer dans le dialogue interreligieux de notre groupe de l'amitié judéo-chrétienne d'Annecy, que nous vivons tous ensemble dans un dialogue continu. Nous apprenons à mieux nous connaître, nous avons appris depuis quand même presque 40 ans pour moi, et je ne sais pas pour quelques-uns ici, mais il n'y en a plus beaucoup. Et il y en a des nouveaux, vous, tous. Eh bien oui, vivre ensemble dans la fraternité, sans espérance. Jules Isaac n'aurait pu résister et transmettre sa force spirituelle. Son grand ami Charles Péguy disait que l'espérance est une petite fille pleine d'avenir et d'allant. Continuons à écouter aussi un autre message, car il est dit, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas que de le prévoir, mais de le rendre possible. Jules Isaac a quitté ce monde le 5 septembre 1963, voilà juste 60 ans. Dans son testament, il exprime ceci. Je n'ai donné mon adhésion à aucune confession religieuse, aucune église, mais non plus à aucune négation. Le combat contre l'antisémitisme m'a rapproché d'Israël, dont j'estime le sévère monothéisme. À l'heure de la séparation finale, le recueillement et la prière conviendront. La prière, dit-il, vous la demanderez pour moi au rabbin Zawi, rabbin libéral que j'ai connu aussi. Je souhaiterais qu'elle fût dite en français, sinon traduite de l'hébreu. Les obsèques seront simples, pas de discours ou promenade dans les rues, pas de chagrin inutile, simplement l'acceptation des cœurs, le pardon, le souvenir apaisé. Que survive en vous ce qu'il y a de pur en moi. Adieu, retournez vers la vie sans moi et pourtant avec moi. Il est avec nous au travers de ce timbre que vous avez vu à l'entrée, qui est sorti le 4 septembre et en son honneur. Et vous le trouverez dans tous les bureaux de poste pendant un an. Ce que je vous ai lu, je l'ai tiré d'une biographie qui a été faite un mois après la mort de Jules Isaac, en 63. Elle est parue dans une revue qui s'appelle L'Arche, une revue juive. C'est Lazare Landau, un historien, ancien professeur, S-doctor de l'Université de Strasbourg, qui a bien connu Jules Isaac et qui a voulu écrire. Et puis, bien sûr, j'ai travaillé aussi avec la revue Sens. Surtout, son œuvre, curieux, n'est-ce pas, à dire cela, mais Jules Isaac et son œuvre de purification. C'est assez récent, donc c'est la revue Sens 437. Vous pouvez toujours les avoir à Paris en demandant et on vous les envoie. Et puis là, il y a les 10 points de sa, les 70. Pour les 70 ans de la conférence de Salisbury, il y a tout un travail. C'est une revue absolument exceptionnelle et remarquable, très haut niveau, ça c'est vrai, mais qui raconte, qui explique, avec divers, il n'y a pas que le monde juif dedans, bien sûr il y a beaucoup de choses sur le monde chrétien, mais justement, toutes ces relations. Et cela, je suis allée à Rennes, il y avait des choses pour l'Assemblée Générale Nationale, et j'ai rencontré Monseigneur Dornelas. C'est lui qui a écrit que c'était un génie providentiel qu'était Jules Isaac. Et il y a eu, et il y a toujours, et sur toute la France, on nous a demandé, dans chaque groupe, de faire une conférence sur Jules Isaac. Voilà, alors je me suis permis de vous la faire. J'espère que ce n'était pas trop long.
Voilà, maintenant c'est le père Alain et on posera des questions après.
Vous avez tous noté 1877 pour Jules Isaac et non pas 87. Voilà. Alors d'abord, là, ce petit topo que j'ai fait à la suite de ce que vient de nous exposer Eliane, évidemment il est marqué par la gravité des événements et toute mon amitié et ma sympathie à tous nos amis juifs qui sont ici présents, qui sont sûrement les uns et les autres touchés assez de près dans leur famille, en Israël. Voilà, et puis avec tous les développements de ces événements ces jours-ci. Alors, Jean 23 dont je vais parler, notamment dans la période noire du nazisme, a été aussi profondément touché par l'agression qui visait les juifs dans toute l'Europe. Je vais exposer un petit peu son action qui a préparé certainement ce qu'il a pu vivre ensuite grâce notamment à Jules Isaac. Alors, pour ne pas être trop long, bien on pourrait dire beaucoup de choses. Il y a des gros livres sur la biographie de Jean 23. Je voudrais m'arrêter à deux moments de cette biographie, de celui qu'on a appelé le bon pape Jean. On voit sa bonne tête ici derrière. Je m'arrêterai simplement à son action en tant que nonce à Istanbul. Enfin, nonce, c'était pas exactement le titre qu'il avait, mais enfin, je simplifie un petit peu. Et puis, évidemment, l'empreinte qu'il a laissée comme pape dans les relations entre juifs et chrétiens et sous l'impulsion, entre autres, de sa rencontre avec Jules Isaac. Alors, un premier point, un petit A, si on peut dire, les fondations, dire quelques mots de comment ce qui a préparé de loin le pape. D'abord, voilà, il s'appelle, son vrai nom, c'est Angelo Giuseppe Roncalli. Il est né le 25 novembre 1881 dans un tout petit village qui s'appelle Sotto il Monte, près de Bergame, en Lombardie. Il est le deuxième enfant d'une famille de 10. Ses parents sont des métayers, c'est-à-dire, les métayers, c'est des agriculteurs, mais qui ne possèdent pas la terre, ni même, je pense, la maison, mais qui doivent chaque année livrer la moitié de leur production aux propriétaires. Donc, voilà, c'est des gens donc, très modestes. Et puis, il a toujours bien gardé ses racines, notamment ses frères ont vécu assez longtemps aussi, ils venaient le voir. Voilà, il est toujours resté en lien avec son petit village, Sotto il Monte. Alors, je vais très rapidement, il a été ordonné prêtre voilà, en 1904. Et puis déjà, à ce moment-là, il a fait un pèlerinage en Terre Sainte. Et puis, à son retour, on lui demande d'être enseignant dans le séminaire de son diocèse et enseigner l'histoire de l'Église. Et Donc, j'insiste là-dessus parce que cette formation historique, ça rapproche aussi de Jules Isaac. C'est quelqu'un qui, grâce à l'histoire, avait une certaine vue large des choses, une vue de... Il savait situer dans la longue histoire le présent. Et puis, alors il a enseigné l'histoire de l'Église, évidemment, et il soulignait surtout l'aptitude de l'Église au cours des temps à se renouveler. Voilà. Donc lui-même va aider aussi à ce renouvellement, mais il savait que c'était un peu la vocation profonde de l'Église de toujours se renouveler, s'adapter. Puis en 1925, sans qu'il l'ait cherché, il va entamer une longue carrière de 33 ans dans la diplomatie vaticane. Vous voyez, ce n'était pas forcément ce à quoi il se destinait, évidemment. Et voilà, longue carrière, 33 ans. Et il a commencé comme délégué apostolique, donc ce n'était pas tout à fait les pleins pouvoirs d'un ambassadeur, mais c'est déjà pas mal. En Bulgarie, donc là-bas, la majorité du pays, c'est un pays orthodoxe, donc où les catholiques sont peu nombreux, donc ça l'a déjà éduqué à se confronter avec, même s'il s'agissait de chrétiens, mais quand même qui avaient des horizons assez différents, donc favoriser la modération, la paix, la charité entre des frères, ça a été un peu son objectif là-bas en Bulgarie. Et donc ensuite, alors ce serait le deuxième paragraphe que je voudrais faire, le diplomate de la fraternité, j'ai mis ce titre comme ça. Donc en 1935, il arrive à Istanbul comme délégué apostolique. C'est un peu en dessous de Nonce, parce qu'en fait il n'a jamais eu vraiment, sauf à Paris après, ce rang d'ambassadeur au niveau du gouvernement. Mais il n'y avait pas d'autre que lui quand même. C'était le délégué, c'était le seul. Donc délégué apostolique de la part du Vatican pour la Grèce et la Turquie. Donc la Turquie, la majorité musulmane. Et c'est dans cette année, dans ces années, donc, à partir de 1935, on peut dire que c'est le commencement de la montée des périls, hein, ce qui se passe en Allemagne. Hitler est déjà au pouvoir depuis 1933. Donc, il va avoir l'occasion d'élever la voix avec l'autorité que lui donne son statut diplomatique. Et déjà, je dirais, notamment, il y a un événement assez qui est toujours souligné, c'est une homélie. Une parole au cours d'une messe, d'une célébration après l'Évangile, en janvier 39, dans laquelle il dénonce les lois raciales qui ont cours déjà en Italie aussi, la violence de l'appareil nazi et les discriminations qui deviennent courantes en Espagne. On vit dans cet ensemble déjà, ils connaissent bien tout ça. Et le journal de la communauté juive d'Istanbul, qui était nombreuse, en rend compte en ces termes, donc cette homélie qu'il a faite, l'éminent ecclésiastique a expliqué que l'Église ignore la séparation d'une humanité en race. Il a demandé que l'humanité se réconcilie autour des idées de charité et d'égalité entre les hommes. Voilà, donc c'était en 1939. Et à Istanbul, il a aussi, alors c'est ça qui peut nous étonner un petit peu, des contacts avec l'ambassadeur d'Allemagne, qui s'appelait von Papen. Et lors de, notamment une de ses rencontres en 1943, parce qu'on a un peu le script de ces rencontres, il a un peu rabroué l'ambassadeur qui plaidait pour un rapprochement de la Pologne avec l'Allemagne. L'ambassadeur prenait prétexte du fait qu'il y avait eu ce massacre de milliers d'officiers polonais par les soviétiques. Donc, l'ambassadeur disait que ça devrait favoriser les Polonais à se jeter dans nos bras plutôt que d'être en alliance avec l'URSS. Et Jean XXIII lui avait dit, est-ce que vous croyez que c'est possible quand, est-ce que vous croyez que les Polonais vont oublier les millions de Juifs qui ont été envoyés à la mort? Donc c'est dans les années 43 à peu près qu'il disait cela. Donc il y avait aussi une bonne connaissance de tous ces événements déjà à ce moment-là. Alors, du fait de la neutralité de la Turquie pendant la guerre, hein, parce que la Turquie s'est tenue à l'écart, ça n'a pas été le cas dans la Première Guerre mondiale, mais dans la Deuxième, oui. Et donc elle a été une des voies privilégiées pour les réfugiés juifs, ceux qui fuyaient, notamment les juifs des Balkans, venaient essayer de rentrer en Turquie. Et du coup, le nonce, le délégué apostolique, est très sollicité pour aider à l'établissement, au passage au moins de tous ces réfugiés. Et il écrit notamment à une personne qui était en quête de nouvelles, en quête de savoir ce qu'était devenu une amie suite au naufrage en 1942 d'un bateau avec, il y avait 740 réfugiés à bord, qui a coulé, je crois qu'il s'appelait le Struma, le bateau. Je ne connaissais pas non plus cet événement, mais voilà, c'était déjà les bateaux qui coulent dans la mer avec des réfugiés, c'était déjà le cas à l'époque. Et donc, il a écrit à cette dame, « Pauvre fils d'Israël, j'entends chaque jour leurs gémissements autour de moi, je les plains et je fais de mon mieux pour les aider. Ce sont les membres de la famille de Jésus et ses compatriotes que le divin sauveur vienne à leur aide. » Donc il va beaucoup aider une sorte de personne. Puis il va s'employer à tisser des liens aussi entre les organisations juives, le Saint-Siège, et par son intermédiaire aussi avec les organisations internationales et divers pays. Par exemple, là-bas à Istanbul, il a des contacts suivis avec le chef des émissaires sionistes à Istanbul. Et il va faire suivre au Vatican certaines de ses demandes. Alors, à cette époque-là, peut-être c'est une chose que je découvre aussi, il y avait une grande réticence de la politique vaticane, si on peut dire, par rapport à faire que les Juifs puissent, au fond, se réfugier en Palestine. Voilà, parce qu'ils craignaient que les institutions catholiques, entre autres, ou chrétiennes, pâtissent de cette arrivée nombreuse. Et je crois que ça a dû être assez... Il a fallu du temps pour que les choses soient un peu plus... mieux comprise, quoi. Voilà, donc il y avait une réticence du Vatican à favoriser la venue des Juifs pour se réfugier en Palestine. Ils essayaient de favoriser d'autres solutions, au fond. Mais, par exemple, le nonce, donc Grand Cali, malgré ses réticences du Saint-Siège, va partout une fois au moins passer outre au nom de la fraternité. Par exemple, il va aider des Juifs qui fuyaient la Slovaquie. Il a aidé par les moyens qu'il avait à aller vers la Terre Sainte. De même, il intercède auprès du roi de Bulgarie pour qu'il aide des réfugiés arrivés dans son pays, et parmi eux, il nomme les fils d'Israël. De même, il va intervenir aussi en 1944 pour des réfugiés juifs qui sont bloqués en Transnistrie. Vous voyez où ça se trouve, c'est la Moldavie. Voilà, on en parle encore aujourd'hui. Donc ça existait déjà à cette époque. Et du coup, pour cette action, d'ailleurs, le grand rabbin de Jérusalem l'a remercié. Alors voilà, toute cette expérience dans ces années terribles, je dirais, en donner au futur pape une familiarité avec les Juifs, qu'il a beaucoup côtoyés, aidés, qui lui ont valu d'ailleurs de leur part une grande reconnaissance, comme celle que sont venus lui témoigner en 1960 une délégation de juifs américains. Ce à quoi, alors, il était déjà pape à cette époque, puis il leur a répondu, comme il l'aura fait, il le fera encore d'autres fois, en évoquant l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. « Je suis votre frère. » Certes, la différence est profonde entre ceux qui n'admettent que le Premier Testament et ceux qui ajoutent le Nouveau, je le cite, hein, qui ajoutent le Nouveau comme loi et guide suprême, mais cette distinction ne supprime pas la fraternité qui dérive de la même origine. Nous sommes tous fils du même Père, nous venons du Père et nous devons retourner au Père. Voilà ce qu'il leur disait en 1960. Quand il dit « Je suis Joseph, je suis votre frère », il fait allusion aussi à son deuxième prénom, qui est Joseph. Voilà, et maintenant, le troisième point, je passe au bon pape Jean. Voilà, c'est transformé. Alors, je ne m'attarde pas trop sur la deuxième partie de la carrière diplomatique de Angelo Roncalli. C'est toute cette période où il a été nonce en France, à Paris. Alors là, par contre, il était nonce avec le titre maximum. Et puis en plus, c'est la nonciature de Paris, c'est un peu le haut du panier dans le, voilà, dans la, entre les nonces, celui qui va à Paris, il est bien choisi. Et, cette époque, et particulièrement à cette époque, il est envoyé à Paris juste en pleine période de l'épuration. Il arrive là, il arrive, il est arrivé en 40, je n'ai pas noté la date, je pense que c'est autour des années 40, 44, je crois. Que non, c'est après. 40. C'est à la fin de, au moment où la France est libérée.
45.
Et, 44, fin de 44. Où il y a cette période qui a duré une petite année, l'épuration, c'est-à-dire il fallait que faire de tous ceux qui ont adhéré au régime de Vichy, enfin les responsables, et notamment lui, il était chargé d'épurer l'épiscopat, c'est-à-dire De Gaulle l'exigeait qu'il... Oui, ça a passé en 45, en 46 au début. Et donc De Gaulle exigeait par exemple qu'il démette 30 évêques qui avaient été plus ou moins trop favorables à Pétain. Alors, ça, comme il était très, quand même assez malin, il a dit à De Gaulle, oui, ben, bien sûr, je vais m'occuper de tout ça, je vais étudier ça attentivement, mais il savait que s'il faisait durer un petit peu, la pression de l'épuration allait disparaître. Donc finalement, au final, il n'a fait démissionner que trois. Voilà. Voilà. Donc là aussi, durant cette période de nonce à Paris, là aussi, il a rencontré des organisations juives, mais je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus. En tout cas, il a... Voilà. Et puis après, donc une autre étape que je dis peu, que je vais pas, sur laquelle je n'ai pas trop attardé, à Paris, en 52, il est nommé patriarche de Venise. L'évêque de Venise, il a le titre de patriarche, un vieux titre. Donc, voilà, et là, il arrive à quelque chose qu'il aime bien, parce qu'il a une âme de pasteur, donc il va pouvoir se déployer tout cela à Venise, notamment, il multiplie les contacts avec le peuple, il encourage, au nom de la fraternité, le rapprochement entre les églises séparées. Il a, oui, parallèlement, je dirais, à ce qu'il a pu faire par rapport à l'amitié avec les Juifs, il a aussi un peu une action semblable pour rapprocher les églises qui étaient très éloignées, les églises séparées. Voilà. Et puis, il fait émerger, notamment à déjà Venise, l'idée de ce qu'on a appelé, après au moment du Concile, l'aggiornamento, c'est-à-dire la mise à jour de l'Église, les mises à jour qu'il y a dans l'ordinateur. Se mettre à jour, c'est-à-dire réviser certaines choses qui doivent l'être. toujours jeune, l'Église pour lui, elle est toujours jeune, prête à suivre l'évolution de la vie afin de s'adapter, de corriger, d'améliorer, d'enflammer. Enfin, ce sont ses mots. Voilà, c'est ce qu'il apprend, ce qu'il met déjà un peu en œuvre à Venise. Et tout ça, donc, a préparé le pape Jean, qui est élu à 77 ans, après 11 tours de scrutin, ça a été assez laborieux, le 28 octobre 58, et qui prend le nom de Jean XXIII. Et pour la petite histoire, il y avait déjà eu un pape Jean XXIII, du temps où il y avait le schisme, qu'on appelait le schisme d'Occident, où il y avait deux papes. Il y avait les papes d'Avignon, puis il y en avait d'autres ailleurs. Bon, il y avait déjà eu un Jean XXIII. Alors, comme il s'est appelé Jean XXIII, ça voulait dire l'autre, il n'était pas valable. Quoi. Ça, c'était un historien, il connaissait bien tout ça. Donc, comme pape, comme c'est bien connu, il adopte d'emblée un style simple, et puis il va surprendre tout le monde quand, 3 mois après son élection, il annonce qu'il va convoquer un concile œcuménique. Donc le dernier concile, c'était le concile de Trente, 1870, par là. Voilà, dont la visée sera plus pastorale que doctrinale, mais son idée, c'est de changer les rapports de l'Église et du monde, s'adapter. Et la préparation du concile va donner lieu à de nombreux bras de fer entre le pape qui avait une certaine vision, puis la curie romaine qui était, qui ne voulait pas trop changer quoi que ce soit. Donc, et en particulier justement sur deux dossiers que le pape va charger un cardinal proche de lui, le cardinal Béat, qui était un grand bibliste, spécialiste de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, du Premier Testament. Donc c'est aussi quelqu'un qui était préparé aussi pour ça. Donc les deux dossiers un peu délicats, c'était l'œcuménisme, les relations avec les autres églises d'une part, et puis les relations avec les juifs d'autre part. Donc c'était deux domaines qui étaient novateurs, parce que l'œcuménisme n'avait pas beaucoup avancé encore à l'époque. Donc autant le premier dossier, l'œcuménisme, ça faisait partie des objectifs que le pape, quand il a ouvert le concile, enfin, quand il a déclaré qu'il voulait faire un concile, c'était un des objectifs. C'était de favoriser l'unité des chrétiens. Ça, c'était bien déclaré d'avance. Par contre, le deuxième dossier, la relation avec les juifs, c'est venu plus tardivement. Ce n'était pas forcément dans son idée première. Mais préparé par de nombreux gestes accomplis par le pape au fil des jours. Alors, j'en citais 5. D'abord, le fait qu'il a tenu à ce que l'on informe officiellement l'État d'Israël, de son qui était existant évidemment, de son élection, alors que l'État d'Israël n'était pas reconnu par le Vatican. Mais il a voulu quand même qu'on lui annonce officiellement qu'il était élu. Deuxième pas, quelques mois après son élection, il a été élu au mois d'octobre. La Pâque suivante, la semaine sainte suivante, c'était le 26 mars 59, célébration du Vendredi Saint, ben il fait enlever de la prière pour les Juifs cet adjectif bien connu de nous, le perfide, les Juifs perfides, alors c'est du latin perfidis, qu'on traduit, en français on a traduit perfide, évidemment ça a une connotation, mais dans le mot, c'est une question de foi. Ils ne sont pas croyants, on pourrait dire, pas croyants au Christ, ça je pense que ça voulait dire. Mais bon, au fil du temps, ça avait pris une connotation bien autre. Voilà, et puis, donc il fait enlever ça, et il se recommande d'ailleurs, on le disait pas dans la prière, mais en tout cas, il se recommande, alors c'est bon de savoir ça, il dit que son prédécesseur Pie XII, l'enlevait déjà dans les célébrations du Vatican. Mais lui, il a demandé à ce qu'elle se soit enlevée du rituel qui était pour toute l'Église. Mais Pie XII, lui, il ne disait déjà plus, j'irai en privé, enfin, ou à Rome. Voilà. Troisième pas, c'est la rencontre avec Jules Isaac, le 13 juin 1960, qui va être décisif pour décider le pape à inscrire à l'ordre du jour du concile cette question des relations avec le judaïsme, et qui se fera donc qui va pouvoir cette la question de inscrire à l'ordre du jour, c'est quelques mois après la venue de Jules Isaac, 18 septembre 1960. Dans les commissions qui préparent le concile, là, on a inscrit à l'ordre du jour cela. Donc, et ça, le pape a tenu bon, on peut dire. Voilà, alors, je pense que Eliane a déjà donné quelques détails, hein, mais ce qui a décidé Jules Isaac, je crois que vous l'avez dit, à aller voir le pape, c'est quand il a su qu'il avait fait enlever cette mention des juifs perfidis, judéis. Voilà. Alors, donc il va plaider, donc, comme il était dit, hein, d'un changement radical pour mettre fin à l'enseignement du mépris. Et au terme de l'audience, Jules Isaac demande au pape s'il peut avoir une bonne chance de voir ses requêtes exaucées. Parce que voilà, il espérait bien que son audience serait efficace. Alors le pape lui répond : vous avez droit à plus qu'une espérance. Voilà. Et en plus, il lui dit : allez voir le cardinal Béat, voyez avec lui plus de détails, pour discuter un peu plus. Et ce cardinal, il a toute ma confiance. Et de fait, c'est vraiment. Ce joint entre le cardinal et le pape qui fait que les choses vont avancer rapidement. Voilà. Bien. Alors, c'était le troisième pas, hein, cette rencontre avec Jules Isaac. Mais dans le pape Jean XXIII, donc, il y a un quatrième pas qu'il fait, c'est une audience qu'il accorde à 130 membres d'une association juive américaine qui était bien au courant de son action lorsqu'il était nonce à Istanbul. Et il rappelle à ses visiteurs, dans la réponse qu'il leur fait, il leur dit un épisode qui l'avait beaucoup marqué et auquel il avait peut-être contribué pour une part, c'est le détournement vers un port ami d'un navire sur lequel étaient embarqués des milliers d'enfants juifs. Alors, je ne sais pas exactement, je n'ai pas trouvé de détails plus sur cela, mais enfin, il avait un peu fait en sorte, avec d'autres, que ce bateau qui était en cours de route puisse aller pas forcément à la destination prévue. Et puis, il évoque avec eux un rapprochement possible sur la base incontestable de la foi en un Dieu unique et Père, non seulement unique, mais Père, et aussi sur la base de la charité. C'est un mot qu'il a bien employé. Et puis, à nouveau avec eux, il reprend cet épisode biblique qui lui est cher, cette rencontre de Joseph avec ses frères, avec ces mots, « C'est moi, Joseph, votre frère. » Puis le dernier pas, je terminerai un peu là-dessus. C'est emblématique, c'est un geste inattendu. Le 17 juin 62, longeant le Tibre en voiture et passant devant la grande synagogue de Rome, il aperçoit des Juifs qui en sortent. Il y avait peut-être eu un office ce jour-là. Et donc, il fait arrêter la voiture, ouvrir le toit, et puis il bénit ces Juifs qui sont d'abord un peu interloqué de voir le pape s'arrêter là devant eux, et puis ce monde-là s'approche de la voiture et applaudit ce geste. Voilà. Alors il y a beaucoup à dire, plus à dire sur le laborieux cheminement du projet de décret conciliaire sur les relations avec le judaïsme, qui faillit ne pas voir le jour. Parce que, une fois qu'on a su qu'il y avait ça au programme, ben voilà, dans un certain nombre de pays arabes, notamment, où il y avait aussi des chrétiens arabes, se sont un petit peu manifestés, offusqués aussi, sont offusqués notamment du fait que il y avait un représentant du Congrès juif mondial au Concile, mais qu'on avait désigné une personnalité qui a été dûment approuvée par l'État d'Israël. Donc ça donnait une coloration un peu politique à cette nomination qui normalement aurait dû être plus, disons, religieuse. Et là, ça fait un petit peu... Ça a mis des bâtons dans les roues, quoi, un peu. Voilà, et puis mais le pape, qui était toujours un petit peu malin, il a su contourner l'obstacle, et puis finalement faire avancer le projet. Et au final, le texte prévu... il y avait un texte qui était prévu, une déclaration conciliaire uniquement sur les relations avec les Juifs. Et finalement, ça n'a pas eu lieu, ça a été intégré... un décret sur les relations avec les religions non chrétiennes, Nostra Aetate. Donc on parle aussi des relations avec l'islam, avec la tradition orientale, les bouddhiques et tout ça. Donc ce décret a été voté le 28 octobre 65, bon, Jean 23 était mort, et puis Jules Isaac aussi, par 2221 voix pour, contre 88. Alors, ça paraît un petit chiffre, mais il faut savoir que les autres déclarations, il n'y en a aucune qui a eu autant d'opposition, en fait. En général, c'était les grandes déclarations, enfin, les constitutions conciliaires, elles ont été votées avec 10 ou 12 opposants, d'autres, ça a été jusqu'à 70, mais 88, c'était vraiment beaucoup. Parce que ça a été un combat un petit peu... laborieux, voilà. Mais ça a été accepté en 2221, c'est quand même pas mal. Voilà, donc je termine là-dessus. De même que il a été dit, donc, c'est l'évêque Ornelas qui dit que Jules Isaac était l'homme providentiel. Ben, de l'autre côté, en face, son contemporain, Jean 23, a été aussi, on peut dire, un homme providentiel. Mais quand on voit aussi tout ce qu'il a préparé à ça, toute son histoire personnelle. Voilà, et puis, alors, moi, ce que j'ai retenu, c'est la bonté. Hein, il a misé sur la première étape, c'est un peu la bonté. Hein, on a des personnes avec nous, le goût pour l'histoire, puis les événements qui lui ont fait expérimenter la tragédie de la persécution des Juifs. Et puis, on pourrait vous dire, sa capacité à innover. Il avait ça en tête aussi, qu'il fallait innover, s'ouvrir à l'autre, ouvrir des portes. Voilà.
Alors, c'est très, très complet. Mais ça ne nous empêche pas de poser quelques questions tout de même. Est-ce qu'il y a quelques volontaires ? Eh bien, c'est très bien. Passez.
Alors, c'est pas forcément une question qui n'a pas forcément rapport directement à cette ouverture de Nostra Aetate. Mais je sais qu'en 1960, la circoncision a été enlevée du calendrier juif, la circoncision du Christ, hein, qui, oui. Le 1er janvier est censé représenter la circoncision du Christ, et ça a été fait en 1960, donc au temps où Jean 23 était pape. Alors je ne sais pas si c'est lui qui est responsable de cet événement, et puis savoir quelle est la signification qui a fait que ça a été supprimé du calendrier.
J'aurais pas dit 1960, parce que à la suite du concile, il y a eu la réforme liturgique, on a révisé tout le calendrier, et Paul VI avait fait du 1er janvier la fête de Marie, une fête mariale, voilà, Marie, mère de Dieu, en lien un peu avec la Noël. Alors, oui, de fait, c'est peut-être... Est-ce qu'il y a eu des raisons? Je ne sais pas. Pourquoi on a... Parce que c'est quand même, c'est un événement qui est rapporté par les évangiles, la circoncision de Jésus.
Oui, donc, en général, on a comme cherché à effacer la judéité du Christ, finalement.
Alors, oui, c'est une bonne question.
C'est pas la même fête que la présentation.
La circoncision, c'est pas la même fête que la présentation de Jésus au temple. Parce qu'en iconographie religieuse, on voit des tableaux représentant la circoncision. Et on a l'impression que c'est le vieillard Siméon qui circoncit l'enfant.
D'accord, mais c'est pas.
Et c'est pas. L'inscription n'est pas. Le cartel n'est pas. Circoncision, mais présentation de Jésus au temple. Et on voit un vieillard qui circoncit l'enfant. C'est pour ça que je fais une confusion entre les deux. Présentation de Jésus au temple.
C'est la chandeleur.
Oui, enfin, chandeleur, c'est. Oui.
Mais la circoncision sur les calendriers, c'est marqué circoncision.
Ah, mais c'est vrai, je me souviens.
8e jour de l'année.
Je me souviens.
Après,
et c'est pas le 2 février.
Après Noël.
C'est 8 jours après. Ah oui.
Oui, alors du coup, peut-être qu'au niveau de l'iconographie, les peintres ont fait des confusions.
Non, mais
c'est enlevé.
C'est intéressant de savoir pourquoi, je ne sais pas. C'est, au moins, c'est, je ne sais pas si c'est en 1960 ou si c'est plus tard.
Je viens de vérifier sur.
Oui, à mon avis, c'est. Le calendrier, le concile avait demandé une réforme de liturgie, donc ça a été officialisé peut-être vers les années 68, par là, je ne sais pas. 65 peut-être. Mais oui, c'est intéressant. Posez-vous, je n'ai pas la réponse.
Oui, moi je voulais poser une question au Père Alain. C'était la relation entre Jean 23 et Pie XII. Pie XII a été accusé à tort, à mon avis, parce que Madame Goldamer a remercié les chrétiens et notamment le pape d'avoir sauvé de nombreux juifs pendant la guerre, enfin pendant cette période de la Shoah terrible. Et j'aurais voulu savoir quelle était la relation entre Roncalli et le pape Pie XII par rapport à tous ces événements.
En tout cas, c'est bien avec l'accord de Pie XII qu'il a été nommé, par exemple, à Paris, puis ensuite patriarche à Venise. C'était quand même une place, je crois, un lieu très important. Puis comme nonce, enfin, il était en relation permanente avec les instances du Vatican. Donc forcément, pour certaines questions, il fallait sûrement avoir l'aval du pape dans certaines décisions qu'il pouvait prendre. Voilà, je pourrais dire ça. Donc là, vous voyez, à propos d'enlever la mention perfide, il s'appuie sur l'exemple de Pie XII. Oui, bah, il avait un autre style, hein, Jean 23. Finalement, il a voulu aussi apporter un autre style de papauté, plus proche, plus simple. Mais oui, moi je pense qu'il a toujours, obéi, il n'y avait pas de problème. Et peut-être qu'il était, plus proche de certaines réalités que pouvait l'être Pie XII. Donc tout ce qu'il a fait là-bas en Bulgarie, peut-être de temps en temps, c'était un petit peu limite par rapport à la mission qu'il avait. Mais il n'a jamais été désapprouvé, parce qu'il aurait pu être désapprouvé dans tout ce qu'il a fait vraiment pour je crois que même, je n'ai pas mentionné ça, mais il a fait des espèces de faux sauf-conduits pour que des juifs puissent sortir de. Donc toutes ces manœuvres qui pourraient être pas très catholiques, si on peut dire, il n'a pas été blâmé pour ça. Puis en fait, son correspondant, quand il était nonce, c'était Montini, celui qui supervisait un peu l'action diplomatique du Vatican. Il s'appelait Montini, qui est devenu son successeur. Il est devenu Paul VI. Donc voilà, il y avait peut-être plus de connivence avec c'est Montinique avec Pie XII directement, je pense. Voilà.
Au niveau du monde juif, Pie XII n'avait pas du tout une bonne presse. Pendant très 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 longtemps, il n'était pas aimé. Le monde juif a pensé pendant la guerre que Pie XII n'avait pas du tout agi pour aider les juifs. Alors là, il y a peu de temps qu'il a été reconnu qu'il avait sauvé des enfants.
Surtout à Rome.
Voilà, à Rome. Peut-être était-il trop discret, mais il avait quand même fermé beaucoup de portes. Moi, c'est ce que j'ai pu entendre, connaître des relations que nous avions dans le monde juif, alors que Jean XXIII, lui, ça a été tout le contraire. De cette ouverture, de cette capacité de... Peut-être aussi a-t-il été terriblement sensibilisé par ce qui s'est passé, alors que Pie XII était en plein dedans et qu'il y avait le côté politique aussi avec Pie XII. Malheureusement. Alors Jean XXIII, lui qui a beaucoup voyagé, était beaucoup plus ouvert. Et je crois que le côté politique, ben, c'est ce que vous avez expliqué, n'est-ce pas? Il n'y était pas trop sensible. Il faisait ce qu'il avait à faire en tant que bon chrétien.
La bonté.
Eh oui. Et pour l'humanité. Et puis je pense que la rencontre avec Jules Isaac, ils ont beaucoup échangé. Et connaître un juif, ça change tout. On va vous dire, oh ben vous n'êtes pas comme les autres. Mais là, c'était plus que ça. Il n'a pas dit à Jules Isaac, vous n'êtes pas comme les autres. Il a dit, on va faire quelque chose. Et il a fait. Effectivement, le cardinal Béat a énormément aidé. C'est lui qui est resté après, tout le temps en relation avec l'amitié judéo-chrétienne, qui s'appelait à l'époque les amitiés judéo-chrétiennes. Même moi, je les ai connues comme ça, pendant longtemps. Et c'est vrai que le cardinal Béat était très présent. Mais sous, effectivement, bien sûr, l'égide de Jean XXIII.
À écouter ce parcours de Jean XXIII, on a l'impression que c'était un homme de terrain. Il était confronté directement à la réalité, ce qui certainement allait ouvrir son cœur. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
C'était déjà, par ses racines paysannes, déjà un homme de la terre, de terrain, dans ce pied-là. Oui, je pense qu'il n'a jamais perdu le fait d'avoir des racines dans un monde très modeste, ça le rendait proche aussi de beaucoup de gens, de ce fait-là. Oui, un homme de terrain, c'est vrai.
Il a dû être sensibilisé aussi par les 10 points de Sénisberg. Parce qu'il y avait beaucoup de catholiques, il y avait des protestants, il y avait des juifs, et c'est parti vraiment, malgré tout, de penser ce qui s'est vécu pendant cette guerre, cet immense génocide, cette Shoah, c'est une catastrophe. Donc il fallait réfléchir à aider peut-être autrement le monde juif qui, de toute façon, n'avait pas de terre, n'avait plus rien. Donc, je pense qu'il a été très, très sensibilisé à cela. Il aurait pu, effectivement, ne pas faire. Mais il a fait, et il a bien fait.
Est-ce qu'on a sur la revue Sens les 10 points de Sélisberg?
Oui.
Ce serait bien de leur entendre, je peux fermer.
Oui. J'avais pris exprès...
De les relire.
Alors c'est peut-être un peu long quand même. C'est long.
Alors quelques éléments.
Mais peut-être quelques éléments.
Alors, les titres peut-être. Ça.
Ouais.
Je me suis dit, c'est trop long à lire. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Je crois que je ne les ai pas cochés. Non. Ils ne sont pas. Moi, j'ai les 12. J'avais coché plein d'autres choses. Alors, je les ai là, sous une autre forme. Désolée. J'ai coché beaucoup de choses, mais je me suis dit, ça va être trop long.
Oui.
Je voudrais vous recommander un livre.
Bon, je voulais pas poser une colle. Hein. Je suis désolé.
Je voulais poser une question de détail, peut-être. Si j'ai bien compris, Jules Isaac n'était pas dans une famille croyante.
Non.
Est-ce qu'il parlait l'hébreu ?
Non. Non. C'était une famille, on appelait d'ailleurs les juifs à ce moment-là, ça se faisait plutôt appeler israélites, mais il y avait des gens croyants, religieux, qui parlaient l'hébreu, effectivement, qui priaient, mais cette famille, du tout, elle était laïque. Il y a encore aujourd'hui des juifs laïques, mais cette famille était vraiment intégrée, elle était juive, elle ne cachait pas le fait d'être juive, portant ce nom-là, mais elle n'avait aucune relation avec le monde religieux. Après, je ne sais pas, vous savez, vous avez des juifs laïcs, ils vont faire Shabbat quand même, mais ils ne vont pas faire tout le côté religieux d'allumer les bougies, de faire les prières, mais par exemple, ils vont faire un bon repas ensemble le samedi et non le dimanche. Mais je pense qu'ils étaient très intégrés. Donc, d'où son étonnement. Non, il ne parlait pas du tout hébreu, ni le yiddish, puisque c'était des familles plutôt tournées vers l'Europe centrale, ou en tout cas là, eux, non, près de l'Allemagne. Donc, et des vieilles familles, comme les Alsaciennes, les vieilles familles alsaciennes, comme les Dreyfus. C'est des gens qui ne parlaient pas l'hébreu, ni le yiddish, et qui étaient, voilà, patriotes, je veux dire aussi, plus de...
Je ne sais peut-être pas l'hébreu, mais apparemment il connaissait bien la Bible grecque, puisque
ah oui,
finalement les études de grec lui ont permis de lire la version grecque de la Bible.
Oui.
Donc il était quand même religieux.
C'est ça qui est incroyable.
Connaissance de
ah oui, c'est ce qu'il dit. Il n'est pas dans une religion, mais il ouvre à toutes pour comprendre. Par contre, il s'est rapproché du monde juif. Il ne connaissait pas, il n'avait même pas vraiment d'amis juifs, mais il s'est rapproché des personnes juives à ce moment-là, au moment de la guerre, et comprendre le malheur. Mais c'est comme si vous voulez, ça lui est tellement tombé dessus, parce qu'il s'appelait Isaac, que c'est un nom juif, et il y a eu plein de juifs comme ça d'Europe centrale, d'Europe, de toute l'Europe, pendant la Shoah, pendant la guerre, où... Eux, ils ne se sentaient pas. Ils vivaient normalement dans les villes, les villages. Tout le monde n'était pas hyper religieux, loin de là. Ou des familles qu'il était, mais les jeunes, souvent, partaient de là, étaient même devenus socialistes. Il était socialiste. Il n'y avait, avait pas encore l'époque du Bund, mais presque, hein, si. Donc, voilà ce qui se passait en Europe. Lui, il était une famille de militaires, vous vous rendez compte, ce qui était exceptionnel. C'était interdit pratiquement d'être militaire quand on était juif.
Non, c'était interdit.
Non, j'ai un livre là que je recommande, qui vient de paraître, Déconstruire l'anti-judaïsme chrétien. En fait, c'est la conférence des évêques qui a repris dans ce livre un certain nombre de déclarations au fil du temps. Et je vois ici une allusion aux différents points de Selisberg.
Oui.
Justement, voilà. De ces propositions, on retiendra que ce sont les grands prêtres représentants d'une étroite caste oligarchique, asservie à Rome et détestée du peuple, qui ont fait arrêter et condamner Jésus. Donc, c'est un point d'histoire. Ils l'ont fait à l'insu du peuple et même par crainte du peuple. Que, ça c'est numéro 15, que l'attitude des pharisiens et docteurs n'est, selon les textes, pas unanime contre Jésus. Ce qui est vrai.
Il y a une question
puis,
là.
Puis numéro 16, que le peuple juif n'est pour rien dans le procès juif et n'en a probablement rien su. Et enfin, pour numéro 17, au sujet du procès de la mise à mort de Jésus, Jules Isaac rappelle que la mise en croix était un supplice romain,
voilà.
Avec notamment les couronnements d'épines. La foule est décrite ameutée, ce qui n'a rien à voir avec le peuple juif d'alors, dont les sentiments anti-romains ne font pas de doute. Enfin, la proposition numéro 18 invite à ne pas oublier que le cri monstrueux « Son sang soit sur nous et sur nos enfants » que criait cette foule ameutée ne saurait prévaloir contre la parole de Jésus sur la croix « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voilà, ça c'était donc les numéros 12 à 18.
Il a eu 18 fois, je suis désolée, je ne les retrouve pas.
Il y a une question. Monsieur qui voulait poser.
Je suis ici par sympathie et le désir d'apprendre, et j'apprends beaucoup. Mais justement, il y a des petites anecdotes qui me semblent sauter à l'oreille et aux yeux. Par exemple, quand Kennedy arrive à Berlin et qu'il dit « Ich bin ein Berliner », il a un impact mondial. Quand Martin Luther King dit « I have a dream », il a un impact mondial et je suis étonné d'avoir appris et de ne pas le savoir, j'ai honte, mais le geste d'arrêter sa voiture, d'émerger et de bénir des juifs, ça aurait dû avoir un retentissement aussi puissant. Est-ce que ça a eu lieu ou c'est une anecdote, hélas ?
Je crois que c'est une anecdote.
C'est une anecdote.
Je n'ai jamais entendu.
Ah, c'est dommage.
Il n'y avait pas de photo. Il n'a pas fait ça pour être photographié.
Non, je ne parle pas de ça. Je parle que c'est un impact vis-à-vis du public.
Il n'en a pas
extraordinaire.
C'était naturel, je crois, pour lui.
Mais oui, et je pense que c'est aussi pour ça que ça a sensibilisé le monde juif, pour pouvoir, et donc Jules Isaac, et d'autres avec lui, dont le grand rabbin, qui sera futur grand rabbin de Paris, le grand rabbin Kaplan. C'est, et bien d'autres qui ont suivi, alors qu'ils n'étaient pas religieux, ils l'ont suivi parce qu'effectivement, il a œuvré, donc là je parle de Jules Isaac, dans une amitié avec Jean 23, pour ensemble pouvoir avoir une reconnaissance des uns et des autres. Donc bénir de la part d'un pape des juifs, bon, c'est quand même un peu exceptionnel. Normalement, on ne reçoit pas tellement une bénédiction chrétienne quand on est juif. Mais c'est le geste qui compte. C'est l'ouverture, la bonté. Et puis, il y a eu d'autres choses qui se sont faites à Rome, notamment d'aller à la synagogue après...
Premier
pape, Jean-Paul II, a rentré dans la synagogue, ce qui était incroyable. Et puis d'aller prier au mur, voilà, des lamentations, ou au Kotel, on n'appelle plus le mur des lamentations, mais le Kotel à Jérusalem. Ce sont des actes tellement puissants, mais qui ne se connaissent pas dans le monde, dans notre monde. Parce que est-ce que c'est l'aspect religieux? Mais nous le vivons. Et notamment, tous les groupes de l'amitié, on est 45 groupes en France d'amitié judéo-chrétienne, grâce à cela, parce que la nécessité, c'est que vous connaissiez et que vous en parliez autour de vous après. Ce sont des gestes formidables. Et c'est comme ça que ça crée aussi l'amitié et le respect. Là, j'avais un texte qui est très court, et justement, Jules Isaac dit cela. Quels que soient les péchés d'Israël, il est innocent et pleinement innocent des crimes dont l'accuse la tradition chrétienne. Il n'a pas rejeté Jésus, il ne l'a pas crucifié, et Jésus non plus n'a pas rejeté Israël, il ne l'a pas maudit. Et de même que les dons de Dieu sont sans repentance, ça c'est dans Romains, de même l'évangile, loi d'amour, est sans exception. Puissent les chrétiens le reconnaître enfin, reconnaître et réparer leurs criantes iniquités, à leur présente où une malédiction semble peser sur l'humanité entière, c'est le devoir pressant de leur dicter la méditation d'Auschwitz. Il écrit ça pendant la guerre. Donc, c'est fort, il le défend, ça fait partie des 10 points de Salisbury. Pierre, je voulais dire.
Oui, je voulais remercier Père Alain Fournier pour la description de Jean 23. Je trouvais exact dans le sens que j'ai vu dernièrement il y a une année, le fameux film sur Jean 23 des éditions Sage, S-A-J-E, qu'on peut trouver, entre autres, commander à la procure. Il est excellent. Il écrit Jean 23 depuis sa petite enfance, où il demande à sa mère, qui est pauvre, « J'aimerais être un pauvre petit prêtre de campagne. » Et sa mère lui répond, « Mais pauvre, tu l'es déjà, et à la campagne, tu l'es aussi. Quand t'es prêtre, il ne faut pas trop compter parce qu'on n'a pas l'argent. » N'est-ce pas? Et jusqu'à sa mort et toutes les difficultés qu'il a rencontrées au Vatican, mais au préalable, cette libération d'un train complet de juifs auquel il s'est opposé au SS pour éviter que ce train parte, il a pu tout annuler, ce départ qui partait pour les camps de concentration. Tout est bien décrit, c'est un excellent film, je recommande.
Lui ajouter là dans tout le travail de Jules Isaac, c'est sûr que depuis qu'il a fait cela, disons dans l'exégèse, tout ça, on a beaucoup travaillé toutes ces questions. Voilà, je pense que, par exemple, on connaît beaucoup mieux le mouvement pharisien, par exemple. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus pour montrer que finalement Jésus était assez plutôt dans cette mouvance-là, d'une certaine manière, qui était une mouvance exigeante par rapport à la pratique courante. Alors après, évidemment, il a aussi mis des ruptures par rapport à cela, mais voilà, je pense qu'il y a tout ce qu'a... Les bases qu'a posées Jules Isaac, elles ont été bien développées dans les travaux des biblistes, tout ça. Fortement.
On peut s'étonner qu'il ait fallu 2000 ans pour déconstruire toute cette perfidie de l'Église catholique. J'inverse maintenant le micro. C'est quand même.
Oui, on peut s'étonner qu'il ait fallu 2000 ans pour déconstruire toute cette.
C'est ça, il a fallu des drames.
Même pendant les Lumières, est-ce qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont essayé de... Non.
Après, il y a eu des philosophes comme Spinoza.
C'est un humaniste, en fait. Il a fallu 2000 ans.
C'est un juif.
Oui.
Il a ouvert, mais c'est un juif. Dans le monde catholique, il n'y avait pas d'aide. L'enseignement était vraiment difficile. Enfin, il était ce qu'il était. Il était difficile pour le monde juif. Même moi, dans mon enfance, mes amis catholiques, elles n'aimaient pas les juives. J'ai entendu quand même que j'étais une sale juive. Donc, c'est là où, connaissant après l'histoire, et encore, on avait des parents, vous savez, dans toutes nos familles juives qui se sont tues, qui nous disaient en plus de ne pas dire qui on était. Surtout pas dire qu'on est juif. Alors il y avait la différence, oui, moi je n'allais pas à l'église. Alors elle me disait, pourquoi tu ne fais pas ta communion? Non, je ne fais pas. Mais bon, c'est quand même la difficulté. C'est quand même la difficulté. Moi, ce qui m'a fait venir là, c'est des rencontres justement avec des personnes, une personne antisémite violente. Et là, je me suis dit, non, il faut que j'arrête de me cacher. Ah oui. Et j'ai rencontré le groupe il y a presque 40 ans, avec Nathalie Rostand. D'ailleurs, c'est gentil, parce que le père Alain me montre ce livre, je le connais bien. On avait une énorme bibliothèque.
Elle est là, elle est à la Puya. Hein. Mais oui, elle vient de la bibliothèque, elle était à nous. On achetait des livres tout le temps. Moi, je faisais acheter beaucoup de livres. On me demandait pour le judaïsme. Et là, c'est dédicacé par le père Marcellini, parce qu'il marque « Ce livre appartient au groupe de Verrier ». On était encore à Verrier à cette époque, de l'amitié judéo-chrétienne, entre parenthèses, Nathalie Rostand, qui était notre présidente, et à qui Jésus m'a demandé de lui succéder. Mais c'est vrai qu'on a une bibliothèque remarquable pour apprendre. Alors là, je tombe sur, peut-être, ça va, ça vous va encore que je lise quelques points de...
Oui, oui, oui.
Enfin, en tout cas, on s'arrête à 10 heures, enfin, vous me direz. Bon, là, par exemple, c'est un petit peu... comment dirais-je, une réflexion sur la nature du changement de perspective, justement. Et les quatre points de Salisbury, les quatre premiers points, par exemple, s'adressent énormément aux chrétiens et leur rappellent qu'il faut combattre toutes les formes d'antisémitisme, religieux et racial, en s'appuyant aussi sur l'état actuel de recherche universitaire, portant sur une période de la séparation, en particulier... en présentant les deux testaments comme complémentaires et non pas en établissant un rapport d'infériorité de l'un par rapport à l'autre et en étant attentif à la liturgie. Parce que c'est vrai, le premier testament, on disait l'ancien, puis finalement il n'existe plus. C'est ça l'histoire du Verus Israël. Ça a été... Le vrai Israël, c'était à partir du Second Testament, à partir de Jésus. Et vous avez la synagogue de les yeux bandés sur les églises. Elle n'existe plus, cette synagogue. Donc là, il fallait réhabiliter cela. On ne pouvait pas. Quand on pense comme le Premier Testament est si important pour la culture, Jésus était un juif. Il n'a rien d'autre appris à ses amis, à ses apôtres, que des choses juives, un peu modernisées peut-être. Voilà, je dirais ça, un peu modernisées. Alors pour cela, il faut mettre en lumière le lien entre la liturgie juive et la liturgie chrétienne, reconnaître les richesses spirituelles des interprétations juives et purifier la liturgie chrétienne des perspectives anti-judaïques et en particulier dans les homélies, les prédications et aussi les prières. Ça, c'est en 47, hein, ce que je vous lis.
Oui, ça fait moderne. Hein.
Ah oui, ce point me paraît primordial, car j'ai la ferme conviction que les fidèles croient ce qu'ils prient, ce qui est temps, et qu'il est temps que la liturgie reflète aussi les avancées du dialogue. Et c'est sûr, il y a un deuxième point, alors là il est parti des quatre points, ça c'était le premier, qui ajoute que le dialogue nous encourage à examiner nos propres traditions, ça c'est vrai, avec un regard nouveau et critique, et c'est précisément cela qui touche notre engagement existentiel aux côtés de l'autre, à côté de l'autre. Et c'est vrai. On approfondit nos traditions en étant ensemble. On perçoit la différence fondamentale entre un dialogue qui serait uniquement utilitaire, je prends ce qui enrichit ma foi et je ne me préoccupe pas du reste. Non. Et un dialogue que j'accepte, où j'accepte le changement en profondeur, la présence et la vie de mon frère induisent en moi et où je laisse advenir ce changement sans le contrer. Mais il ne faut pas oublier que c'est un dialogue fraternel sans syncrétisme, et il n'est pas question de convertir du tout, du tout. Alors qu'il y a encore très très peu de temps, j'avais fait une conférence, on partait beaucoup avec le père Barcellini partout dans les écoles, et il y avait un ami pasteur qui était là aussi, que je ne connaissais pas. Et j'étais à table après déjeuner à côté de lui, et il me dit « Oh, quand même, c'est dommage, Je lui dis, qu'est-ce qui est dommage? Mais il me dit, vous n'irez pas au paradis? Un pasteur, hein. J'avais raconté ça à Jean-Marc, ça l'a choqué. Un pasteur. Ah bon? Je lui dis, pourquoi? Bah parce que vous n'êtes pas baptisé. Ah! Mais je lui dis, vous savez, pour aller vers la maison de Dieu, il y a plusieurs maisons, et il y a plusieurs chemins. Et nous, c'est comme Frank Rosenzweig qui disait, effectivement, pour aller vers la maison du Père, moi je suis en direct. Ben oui, nous on est en direct. Il faut avoir de l'humour, hein. On est en direct. On n'a pas besoin du baptême, on a autre chose, on a autre chose, on a plein. On a les 613 commandements, la faites-les. Le baptême, finalement, hein, c'est rien. C'est beau, hein. Attention, quand je dis c'est rien, c'est pas pour dire. C'est un magnifique geste. Puis voilà, ça pourrait s'arrêter là. Mais nous, toute notre vie, normalement, pour être un bon juif, il faut en faire des choses. Hein.
Et le mikvé, c'est pas le baptême?
Le mikvé, mais oui, mais certainement que ça vient de là. Nous, on a le mikvé. Et là, c'est quelque chose qui se fait régulièrement avant les fêtes, avant Shabbat, avant les mariages, avant les... On le fait régulièrement, on se plonge complètement dans de l'eau de source, pas de l'eau du robinet, la tête se plonge complètement et le rabbin fait une prière. Jean-Baptiste, mais évidemment. Mais c'est pour ça que quand on connaît nos histoires, c'est des liens exceptionnels, extraordinaires. On est vraiment des frères. Puis mais avec des manières de vivre autrement. Voilà. Bon, voilà, il y aurait à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il est très intéressant aussi celui-là, ce sens numéro 420.
Donc, voilà, les amis. Ils sont disponibles à la librairie
dont tu parlais tout à l'heure, non?
Ah, ici, non, oui. Je ne pense pas des sens, il n'y en a pas. On a peut-être pu en déposer un peu, mais... Non, on les commande, ils sont disponibles à l'Amitié judéo-chrétienne de Paris. Vous tapez sur Google et puis vous le commandez et ils vous l'envoient.
Mais c'est ce que je voulais dire, on peut les commander sur Internet,
oui,
en passant par le site de l'Amitié judéo-chrétienne de France.
Voilà.
Et là, vous pourrez...
Ça, c'est le... Julisac, c'était le... Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Le 437, parce qu'il y a même un discours du rabbin Corsia, et là, l'autre, c'est le 420.
Une question? Non, on peut...